Bonsoir, comment allez-vous? Connaissez-vous le conte des deux frères? Il était une fois deux frères, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche, qui avait la méchanceté dans le cœur, était orfèvre. Et le pauvre, qui était honnête et bon, gagnait sa vie en fabriquant des balais. Le pauvre avait deux jumeaux, des petits garçons qui couraient partout. Il leur arrivait parfois d'aller chez leur oncle, où on leur lançait quelques restes à manger. Un jour, que le pauvre était dans la forêt, chercher du genêt pour ses balais, il aperçoit un oiseau si beau, mais si beau, comme tout en or. Il ramasse un petit caillou, le lance et touche l'oiseau qui perd une plume avant de s'envoler. Le pauvre ramasse cette plume et la porte à son frère. « C'est de l'or véritable, » dit celui-ci, qui lui en donne une belle somme. « Mais ce que je voudrais, » dit l'orfèvre, « c'est l'oiseau lui-même. » Les jours suivants, notre pauvre fabricant de balais arrive à tuer l'oiseau. Il l'apporte à son frère qui lui en donne une somme bien plus grosse que la précédente. Mais surtout, ce que veut l'orfèvre, c'est manger cet oiseau, à lui tout seul. Car il sait que celui qui mange le cœur et le foie d'un tel oiseau trouvera ensuite, tous les matins, une pièce d'or sous son oreiller. Seulement voilà, les deux petits jumeaux, attirés par l'odeur de la volaille rôtie, arrivent en courant et piquent en passant deux petits morceaux tombés dans la lèche frite. Et le lendemain matin, ce sont eux qui, en se réveillant, bing, voient tomber une pièce d'or de leur oreiller. Pendant que tout excité, l'orfèvre soulevait le sien et ne trouvait rien. Vous pouvez lire la suite des deux frères dans le volume 1 des Contes de Grimm édités chez Flammarion.
Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 8 ans. J'aimerais savoir d'où viennent les légendes. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Romane. Bernadette Bricou, c'est vraiment votre domaine puisque vous êtes professeure de littérature orale à l'université Paris-Diderot. C'est vrai qu'on se demande d'où ça vient.
D'abord, la question de Romane, elle est évidemment fondamentale. Et il faut se dire que si on entend le terme de légende au sens de récit oral, mais on va parler un peu plus précisément de la légende, ben on peut se dire que ces récits oraux, ils sont portés par la bouche d'ombre et que probablement, ils sont aussi anciens que l'humanité elle-même. On peut imaginer que lorsque les hommes ont vu disparaître le soleil, c'est une expérience que l'on fait chaque soir et qui est très difficile dans un monde qui ne connaissait pas la fée électricité. Eh bien, bien sûr, on a attendu son retour, mais on a pu aussi inventer des histoires pour essayer de le faire revenir. Des rituels, des incantations, des prières, mais aussi des histoires pour expliquer pourquoi tous les soirs le soleil nous quitte et pourquoi au matin il va venir réchauffer la terre.
Vous pensez, Bernadette Bricou, qu'il peut y avoir des légendes très anciennes qui remontent jusqu'au début de l'humanité? Il peut y avoir des bribes d'histoires comme ça qui viennent?
Alors, l'ancienneté des récits, elle est simplement attestée par leurs traces écrites, puisque nous ne pouvons pas parler de ce qu'il y a en amont de l'écrit. Évidemment, nous sommes réduits à des hypothèses. Il faut se dire, par exemple, que le conte des deux frères est un conte qui est un conte extrêmement connu, dont la première version se trouve sur un papyrus qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, vous allez me dire, 2000 ans avant Jésus-Christ, ça n'est pas très loin. Mais pensez, par exemple, aux dessins que l'on trouve sur les murs de la grotte de Lascaux. On s'aperçoit bien que ces dessins racontent des histoires. Moi, je crois qu'à partir du moment où la parole humaine intervient, il y a du récit et il va y avoir du récit pour créer du lien. Alors, en ce qui concerne la légende, puisque c'est là-dessus que porte plus précisément la question de Romane, la légende, étymologiquement, on dit que c'est ce qu'il faut lire, ce qu'il faut avoir lu, ce qu'il faut méditer. Et donc, il y a toute une série de légendes qu'on racontait, alors elles sont moins anciennes, mais enfin, on en a de très nombreux exemples, notamment dans les récits médiévaux. On les racontait dans les églises ou dans les monastères, et c'était des récits pour l'édification des fidèles ou des moines. Des récits qu'il fallait méditer parce que c'était des leçons de charité, des leçons d'espérance, des exemples de bonne conduite, un peu comme le sont les paraboles, si vous le voulez. Et puis, alors, on dit que la légende, ça, c'est une grande différence avec le conte. La légende, elle se donne comme un récit qui est réellement arrivé, alors que le conte avec son « il était une fois » est une histoire inventée à plaisir. Le conte dit « je suis une histoire qui se situe dans l'imaginaire. Alors très souvent, eh bien, on va s'apercevoir que les légendes ont surgi là où il fallait expliquer une particularité du relief, de la topographie de la ville. Là où, par exemple, a surgi une source en forêt, on va raconter une légende pour expliquer l'apparition de la source, comme dans le beau film de Bergman qui porte ce titre. Et donc, le récit est là pour expliquer des particularités encore observables du monde aujourd'hui, et elle est ancrée dans l'histoire et dans l'espace.
Bernadette Bricou, qui a enseigné la littérature orale pendant des années, continue à donner des conférences dans le monde entier. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, Clément Santamaria nous dira comment empêcher notre portable de sonner sans le mettre sur silencieux ni sur avion, tout en le laissant allumé. Christian Marcadet nous parlera de la chanson française la plus connue à l'étranger et Guilhem Le Saffre nous dira quelle est la différence entre un hibou et une chouette. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des jeunes posent des questions et des savants répondent. Marc Péchanski est biologiste, chercheur à l'INSERM, spécialiste des maladies neurodégénératives et des cellules souches.
Bonjour, je m'appelle Maëlys, j'ai 9 ans et je voudrais savoir combien il y a de maladies génétiques. Au revoir.
Marc Péchanski.
Eh bien Maëlys a raison de se poser la question parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas combien il y a de maladies génétiques parce que une maladie génétique, c'est une maladie qui va toucher une partie du programme qui permet à notre corps, à nos cellules de fonctionner. Et dans ce programme, on a identifié, il y a maintenant une quinzaine d'années, à peu près 22 000 petites parties qui sont responsables chacune de la production de protéines. C'est ce qu'on appelle des gènes. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de maladies génétiques. Ces 22 000 et quelques gènes peuvent être touchés par un défaut, une anomalie, quelque chose qui va les empêcher de fonctionner correctement.
Quand vous dites, Marc Péchanski, 22 000 gènes, ça veut dire qu'on a 22 000 gènes en tout ou on a 22 000 gènes qui peuvent bugger ?
Eh non, on a 22 000 gènes en tout.
D'accord.
C'est pas beaucoup, hein, finalement. On pensait qu'on était très fort, beaucoup plus que les vermisseaux ou les souris. Bah, pas du tout. Y a même des tas d'animaux qui ont beaucoup plus de gènes que nous. Mais on les fait fonctionner mieux qu'eux. C'est, en tout cas, on en est persuadé.
Ça calme, hein,
nous,
quand
les
même.
Hommes. Oui, oui. C'est pas au niveau du nombre de gènes que ça se joue. C'est, après, il y a des tas de choses qui interviennent et qui font que l'homme a quand même une très, très grande variété de protéines qui fonctionnent dans son corps. Alors, bah, ces 22 000 gènes peuvent être touchés et on peut se dire, bah, finalement, la limite, c'est 22 000 maladies. C'est pas tout à fait ça. D'abord parce qu'un gène peut être touché de façon très différente. Un gène peut cesser de fonctionner ou mal fonctionner et ça peut donner deux maladies complètement différentes. Il peut cesser de fonctionner entièrement ou partiellement et ça va donner deux maladies différentes. Donc il y a tout un tas de possibilités. Aujourd'hui, on connaît à peu près 7000 maladies génétiques, mais il en apparaît à peu près toutes les semaines. Il y a une littérature scientifique qui existe, qui est presque spécialisée dans cela, et on a comme ça des listes de nouvelles maladies identifiées. Pourquoi on a des nouvelles maladies ? Parce que finalement, maintenant, on a les outils scientifiques pour aller voir les gènes qui sont associés à des symptômes. Et quand on a des symptômes, bah, ça peut être les mêmes. Hein, ça peut être quand on a une fièvre, hein, on peut se dire bah tiens c'est une grippe ou une angine, pas pareil. Hein, et ben dans les maladies génétiques, c'est pareil.
Le Téléthon avait lieu hier et avant-hier, mais le 36-37 est ouvert jusqu'à vendredi si nous voulons faire un don.
Business next for me. Say I didn't tell you so. in the back door. Can't you see I got you out? Let me warn you, hear me now. Don't be your business next to mine. Business next to mine.
C'était The Limbus.
Les petits bateaux sur France Inter.
Guilhem Le Saffre aime les oiseaux et nous, nous aimons Guilhem Le Saffre. Le site internet du Centre ornithologique d'Île-de-France et sur le site des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Emeline, j'ai 6 ans et demi. Je voudrais savoir quelle est la différence entre une chouette et un hibou.
Merci Emeline pour cette question. Je me le demande aussi, nous proposons cette question à Guilhem Le Saffre.
Emeline, je vais te taquiner. La différence entre la chouette et le hibou, c'est qu'ils n'ont pas le même nom. Mais sinon, ce sont des oiseaux qui sont exactement les mêmes. C'est parce que, je vais t'expliquer la chose, en français, nous distinguons les chouettes qui n'ont pas d'aigrettes au-dessus de la tête. Tu sais, ces sortes d'oreilles pointues, là, qui sont
poilues.
Au-dessus du... Ah non, ce sont des plumes.
Ah, pardon.
Et les hiboux qui, eux, ont ces aigrettes au-dessus de la tête. Voilà. C'est de là qu'est venue la différence de nom. Mais dans d'autres langues, cette différence n'existe pas. Les Anglais, par exemple, disent « owl ». Et ce « owl » veut dire aussi bien chouette que hibou.
Alors, puisque vous évoquez les Anglais, Guilhem Le Saffre, la chouette de Harry Potter, blanche, donc c'est une chouette.
Eh bien, ce n'est ni une chouette, ni un hibou, c'est un harfang.
Ah bon?
Oui, là.
Non, mais en fait, un petit peu triché pour qu'il soit plus beau, plus chic.
C'est-à-dire que le harfang des neiges est... L'harfang des neiges est un très très beau rapace, blanc, effectivement. Ah. Le mâle surtout est blanc, la femelle est un petit peu plus tachée de noir, mais il est quand même très très cinégénique, si vous voulez. Hein. C'est un oiseau qui est splendide. Par conséquent, dans le livre, on parle de owl, donc on ne sait pas si c'est une chouette ou un hibou, pour nous, mais dans les films, ils ont choisi de représenter cette chouette par un harfang.
Vous vous rappelez le nom de la chouette de Harry Potter? Moi, je dirais Edwige. Je le présente, il s'appelle Henri, ça c'est notre auditeur. Je le présente, il s'appelle Christian Marcadet, c'est notre savant qui va répondre à Henri. Christian Marcadet est docteur en esthétique, oui, et il a également écrit Paris en chanson.
Bonjour, je m'appelle Henri, j'ai 7 ans, je voudrais savoir quelle est la chanson qui représente la plus la France à l'étranger. Merci.
Bonsoir Henri, quelle est la chanson qui représente le plus la France à l'étranger? Le sait-on seulement, Christian Marcadet?
Alors, qu'est-ce que veut dire représenter le plus la France? Ce n'est pas nécessairement la chanson qui s'est le plus vendue, ni celle qui a eu le plus de succès un temps.
Oui.
Par exemple, une chanson qui a été célèbre et qui l'est encore, mais qui ne l'est que par sa version anglaise, comme je pense
My
à la
Way.
Chanson comme d'habitude. Donc, My Way, dans la version de Frank Sinatra en 1969, ne figure pas dans le palmarès que moi je vais suggérer.
D'accord.
Puisque ça devient une chanson états-unienne. Elle a quitté le domaine francophone.
Donc on ne dit pas que c'est une chanson française.
Alors plusieurs chansons françaises se sont durablement illustrées hein, au cours des siècles passés. D'abord, il y a des chansons romantiques. Je pense à l'exquise romance Plaisir d'amour qui date de 1759 ou le Parlez-moi d'amour de 1930 qui est susurré avec délicatesse par Lucienne Boyer jusqu'à l'hymne à l'amour de 1949 qui est clamé à pleine voix par Édith Piaf. Toutes trois ont effectivement connu une certaine popularité à l'étranger et puis représentent un petit peu la facette sentimentale de la chanson française. Nous avons aussi les chansons qui sont plus liées à l'histoire et aux événements et qui ont aussi marqué leur temps.
Par exemple,
en France, la Marseillaise est un exemple flagrant. La Marseillaise de Roger de Lisle en 1792 et l'Internationale d'Eugène Potier.
Elle est chantée à l'étranger, l'Internationale ?
Ah, elle est encore plus chantée qu'en France actuellement.
Ah oui.
Alors, un troisième titre dans ce genre de chansons sociales, Le Déserteur de Boris Vian, qui date de 1954. Et elle est encore chantée en permanence. À chaque fois qu'il y a une guerre qui arrive, elle est chantée dans les manifestations ou dans les spectacles.
Hein. D'accord.
Voilà. On va essayer cependant d'éclairer et de donner quelques titres qui ont profondément marqué à l'étranger. Alors, je vois en premier « Mon homme », écrite en 1920 par Albert Wilmets et Maurice Yvain, et qui, dès le départ, va être unanimement saluée aux USA.
« Mon homme » chantait pas ?
Au départ, c'est Miss Tinguette.
Miss Tinguette,
voilà. Au départ, c'est Miss Tinguette, oui, absolument. Donc, ça va devenir très vite un standard de jazz. On a, bien sûr, l'exemple merveilleux de « La mer », 1945, le Charles Trenet, qui va devenir, entre autres, un indicatif de radio au Japon pendant une vingtaine d'années. Nous avons aussi La vie en rose, popularisée par Édith Piaf, qui est aussi reprise par Louis Armstrong, Placido Domingo ou Tel Emper, donc des genres totalement différents. Je pense aussi à La Bohème, 1965, de Charles Aznavour.
Mais alors finalement ?
Eh bien, la chanson qui représente le mieux la France à travers sa culture, sa poésie, son art de la mélodie, me semble être un poème de Jacques Prévert, Les Feuilles mortes, mis en musique par un compositeur français d'origine hongroise, Joseph Kosma, et interprété avec une extrême sensibilité par un jeune Marseillais, italien d'origine, monté à Paris, au sommet de son art, Yves Montand, en 1949. Alors, surtout, c'est un air qui, outre qu'il est connu en français dans le monde entier, a eu aussi une version intéressante, Autumn Leaves, qui a été faite aux États-Unis et qui va être reprise par Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Barbara Streisand. C'est une chanson qui va être reprise orchestralement par des centaines d'orchestres de variété et qui est devenue un standard de jazz consacré.
Ah oui.
Et ça, c'est un critère. On connaît des versions par John Coltrane, Stan Getz et tout dernièrement Archie Shepp en compagnie de Monica Passos. À cette date, Les Feuilles mortes demeurent invariablement chaque année un des trois titres qui rapportent le plus de droits à la SACEM depuis l'étranger, juste devant La mer et La vie en rose.
Allez, La vie en rose, Édith Piaf, Louis Armstrong, Placido Domingo, a-t-il suité Grace Jones ?
Je sais.
poser une question au petit bateau, vous faites le 01 56 40 43 57. Clément Santamaria, docteur agrégé de physique, enseignant-chercheur à Cergy-Pontoise, après avoir écrit toute la physique dans un verre d'eau, vient de sortir, toujours chez Ellipse, la physique des bruits et rayonnements.
Bonjour, je m'appelle Dorian, j'ai 11 ans. Je voudrais savoir comment on s'est aperçu que les ondes existaient. Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Agathe, j'ai 11 ans et je voudrais savoir comment les ondes font pour venir jusqu'à la radio. Merci de répondre à ma question. Au revoir.
Alors, c'est le physicien Heinrich Hertz qui prouva le premier l'existence des ondes radio. L'expérience date des années 1888. L'expérience était en fait très très simple. L'émetteur de l'onde était constitué de deux sphères métalliques entre lesquelles on faisait jaillir une étincelle à l'aide d'un courant électrique. C'est un dispositif extrêmement primaire. Et à quelques mètres de là, on avait réalisé un petit récepteur qui est constitué d'un petit fil en métal de forme circulaire, mais sans être totalement refermé. C'est-à-dire on avait une sorte de cercle avec une petite ouverture. Et Hertz constata que les étincelles qui étaient produites par l'émetteur se produisaient au même rythme sur le récepteur. C'est-à-dire quand il provoquait une étincelle sur l'émetteur, sur le récepteur, hop, il voyait une étincelle.
Alors que ça ne se touchait pas.
Il
y a quelque chose.
Et en fait, il s'est passé quelque chose. Donc l'étincelle provoquait ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Cette onde se propageait jusqu'au récepteur. Et là, on voyait apparaître donc, le phénomène d'étincelle à nouveau. Alors ça se faisait sur des distances qui ne seraient pas satisfaisantes pour la maison de la radio. C'était de l'ordre de 10 mètres pour les plus puissants. Et cette expérience est très très célèbre parce qu'elle a confirmé l'existence des ondes électromagnétiques qui avaient été prévues par Maxwell 20 ans plus tôt. Donc, ces ondes électromagnétiques, pour répondre à la question d'Agathe, se déplacent à la vitesse très très grande de 300 000 km par seconde dans le vide. Alors, parfois, elles peuvent se propager à travers les murs, hein. Donc là, c'est plus lent, à travers le verre, c'est plus lent également. Mais comment les ondes font pour venir jusqu'à la radio? Comme toutes les ondes, elles se propagent en ligne droite. Et quand elles vont arriver au niveau de l'antenne du poste de radio, eh bien, elles vont faire bouger les électrons des atomes de métal de l'antenne. Et comme les électrons vont se mettre à bouger, ça va créer un petit courant électrique. Et c'est ces variations de courant électrique qu'on sait transformer en son par la suite.
Mais alors rien ne les arrête, les ondes. Ni une montagne, ni un mur, ni...
Alors les murs, c'est pas trop gênant, mais je peux suggérer à Agathe de faire une petite expérience, de prendre son portable, s'il y en a un, ou prendre celui de son papa, et puis de l'entourer d'un papier d'aluminium.
Oui.
Et si elle essaye d'appeler son portable avec un autre portable, elle va constater que son appareil ne sonne pas du tout.
Ah bon ?
Parce que le métal, il ne va pas laisser passer du tout les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques se réfléchissent sur le métal. Alors que les ondes arrivent très bien à passer à travers du béton, des choses comme ça. Si on met le portable dans le micro-ondes, c'est un petit peu différent. Là, c'est le contraire. Hein. Quand on a un micro-ondes, le micro-ondes produit des ondes qui sont un peu comme des ondes radio. Simplement, bon, des petites caractéristiques qui sont différentes, mais c'est un peu des ondes radio. Et on sait bien qu'il faut mieux éviter quand même que les ondes se propagent vers l'extérieur.
Donc il est étanche.
Donc le micro-ondes, on le rend tout à fait étanche. Et comment on le rend étanche? Eh bien, on met un grillage autour. Si on regarde bien la porte vitrée, on verra parfois, très finement, une petite grille métallique qui va empêcher les ondes, en fait, de sortir, en quelque sorte, de ce micro-ondes.
Donc si je mets mon portable dans le micro-ondes et que je l'appelle, il ne devrait pas sonner.
C'est peut-être plus sûr de choisir un papier d'aluminium, de mettre en route le micro-ondes.
Nous l'avons fait au bureau, ça marche super bien. Pour les hystériques qui veulent vous joindre tout le temps, vous pouvez promettre et même jurer que vous ne mettrez pas votre téléphone ni sur silencieux ni sur avion. Vous n'avez pas dit que vous ne le mettriez pas dans du papier d'alu. Merci Clément Santamaria. Ces petits bateaux étaient réalisés par Marjorie Devoucoux, programmation Jean-Baptiste Audibert, prise de son Luc Availlant, animation Noël Bréham. N'oubliez pas notre site qui vous attend. Et pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour l'Atelier Mon Petit Loup.